Nouvelle attaque à Beni au Nord Kivu, au moins 9 personnes ont été tuées mardi 5 juillet dernier par des présumés rebelles ADF dans les localités de Tenambo, Nzanza et Mamiki dans la cité d'Oicha à 30 km de la ville de Beni. Pour le président de la société civile de Beni, les forces de sécurité n'ont pas anticipé cette menace des ADF parce que ces derniers avaient fait circuler des tracts dans la ville de Beni annonçant une attaque imminente. Mais le porte-parole de l'opération Sokola 1 conteste cette version. Il renseigne que les troupes FARDC sont en alerte depuis plusieurs semaines et précise que l'ennemi a tout simplement profité de la pluie pour opérer. Comment analyser cette énième attaque? C'est notre thème de ce soir. Et pour en parler, je reçois professeur Arsène Mouaka. Bonsoir. Vous êtes député national élu de Béniville au Nord Kivu, également cadre du parti politique DCFN, parti de l'opposition. Bernard Amissi Kalonda, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes administrateur du territoire de Beni au Nord Kivu. Jean-Jacques Wondo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes expert en questions militaires. Mesdames et messieurs, bonsoir une fois de plus et merci de votre attention.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Nord Kivu, au moins 9 personnes, 9 morts, bilan encore provisoire des civils tués mardi matin à Beni territoire. C'est précisément dans les localités et villages de Tenambo, Nzanza et Mamiki, dans la cité d'Oicha, à 30 km de Beniville. Des hommes armés identifiés comme des ADF ont fait incursion dans cette zone avant de piller et tuer ces civils. Certains par balle et d'autres à la machette. On signale présentement un mouvement de population fuyant la région affectée par cette attaque. Gisèle Cage.
Ces présumés EDF ont opéré de 4h à 6h ce mardi sous une pluie battante dans la région de Oicha, selon Amissi Kalonda, administrateur du territoire de Beni. Alors que certains combattants pillaient des habitations, vivres et bétail, d'autres tiraient des coups de feu en l'air ou sur la population, soit massacrés à coups de machette, disent ces sources. Les bilans provisoires fait état de 9 personnes tuées. Pour Teddy Catalico, président de la société civile de Beni Territoire, la menace des EDF n'a pas été prise au sérieux par les autorités compétentes, alors que depuis plusieurs jours, des tracts circulaient à Beniville et Territoire, annonçant une imminente attaque de ces rebelles ougandais. Teddy Catalico.
Les autorités auraient dû prendre certaines dispositions pour contrer l'ennemi. Aux autorités de collaborer beaucoup plus avec la population et de prendre au sérieux les messages qui arrivent. Nous estimons qu'il est temps qu'on prenne des dispositions tout autour de tout autour de Beni pour éviter que les pires ne nous arrivent.
Ce n'est pas l'avis de Makazukai, le porte-parole de l'opération Sokola 1. Pour lui, les troupes FARDC sont en alerte depuis plusieurs semaines. Il précise que l'ennemi a tout simplement profité de la pluie pour opérer. Entre-temps, de nombreux civils quittent l'est de Oicha et se dirigent vers l'ouest pour se mettre à l'abri. Goma, Gisèle Cage. Radio Capi.
Merci Gisèle Cage. Bernard Amissi Kalonda, vous êtes administrateur du territoire de Beni au Nord Kivu. Dans quelles circonstances cette énième attaque a-t-elle eu lieu?
Voilà, nous regrettons cette situation. Le chef-lieu du territoire a été encore une fois la cible d'une incursion de présumés à ADF Nalu dans la matinée sous une forte pluie. Précisément à 6h40, qui a plongé encore une fois Oicha en deuil. Nous avons enregistré 9 personnes tuées, civiles, par ces assaillants. Nous continuons toujours à déplorer cette situation. L'ennemi s'est introduit lorsqu'il y avait cette pluie, et porter des tirs peu semblables au FARDC et d'autres en tenue civile. Voilà ce qui a créé une vision, parce que chaque fois qu'il y a de telles incursions, on nous signale rapidement. La population n'était pas vraiment ne savait pas quoi faire, mais cette confusion que nous avons enregistrée, ça a créé de pertes en vie humaine. Rapidement, au centre de Ouidja, juste au niveau de la barrière, accrochage effardissé et ses assaillants camouflés, et que les gens se sont rendus compte que ce qui passait, c'était alors des adefmans. Donc, voilà, de leur retranchement, parce qu'ils n'avaient pas la force, de leur passage, ils tuaient tout celui qui était aux alentours. Voilà, nous avons enregistré 9
personnes tuées. Bernard Amissi Kalonda, vous avez suivi la société civile de Beni qui dit que vous n'avez pas pris ces menaces au sérieux puisque ces assaillants avaient lancé des tracts quelques jours avant.
Bon, vous savez, les tracts qui étaient lancés, si vous vous souvenez bien, les dimanches, les samedis passés, Erengeti a été une des positions effarissées, était attaquée par des jeunes de Mai Mai. Et ce qui nous a un peu perturbé, nous savons, on ne sait pas localiser, fixer l'ennemi à tel niveau, à tel niveau. Voilà, les effarissés avaient des dispositions, mais c'est une surprise qui est arrivée sous une forte pluie. Les Adefnalu, leur retranchement, ont tué beaucoup de personnes. D'ailleurs, les FARDC les ont poursuivis, ont réussi à tuer 4 Adefnalu, dont un échantillon a été amené devant les bureaux du territoire, enfin de la police. Tout le monde a vu un échantillon Adefnalu tué, et les FARDC ont réussi à récupérer des chèvres que ces gens avaient emportées. Voilà, nous avons des situations volatiles, ça il faut reconnaître. La menace est toujours là, il faut comprendre que c'est vraiment une surprise, les dispositions FARDC étaient là.
Alors, on a suivi une fois de plus le porte-parole de l'opération Sokola 1 qui dit que les FARDC étaient en alerte depuis plusieurs semaines. Peut-on dire que ces dispositions prises par l'armée régulière n'étaient pas efficaces?
Bon, vous savez, le problème c'est que on peut croire que ce n'est pas efficace. La situation que nous sommes en train de traverser au territoire de Beni, je crois, si vous pouvez vous rappeler, en France, les terroristes ont réussi à frapper au centre, même au stade, à côté du stade où étaient les matchs, où le chef de l'État était à côté. Donc, nous devons comprendre que ce sont des terroristes qui savent se camoufler, mais il y avait des dispositions. Voilà ce qui est arrivé, c'est ça la situation, mais nous devons reconnaître quand même qu'il y a eu des efforts, et les FARDC continuent toujours à multiplier des dispositions, même maintenant, la poursuite de l'ennemi continue.
Alors,
et l'ennemi n'a rien... Allô?
Allô, terminez l'ennemi votre propos, s'il vous plaît.
Lors du retrait de la fuite de l'ennemi, il a abandonné tout. Et on a récupéré même les histoires qu'on a... Il a jeté même des cartouches, des cartouchères en cours de route. Donc, vraiment, c'est une surprise sous la pluie et un camouflage. C'est qu'il faut que vraiment comprendre la situation, mais nous devons reconnaître qu'il y a eu vraiment des pertes en vie humaine, et c'est là que nous devons conjuguer les efforts.
Alors, Bernard Amissi Kalonda, vous, en tant qu'administrateur du territoire de Beni, comment vous vivez toutes ces attaques récurrentes? Est-ce que ça ne vous exaspère pas? Il n'y a pas de solution? On en parle, ça continue et ça ne s'arrête pas.
Bon, en fait, si nous nous rappelons bien, nous venons de passer une période d'au moins 2 mois, d'accalmie, et avec maîtrise, et toute la population commence même à apprécier Mais c'est une surprise désagréable qui est arrivée et l'ennemi, comme on ne peut pas l'empêcher de commettre ses forfaits, mais nous devons toujours placer des distractions pour contrecarrer l'ennemi et on l'a contrecarré et malheureusement, il nous a laissé des morts. Voilà. Mais nous devons comprendre que nous sommes dans une zone opérationnelle et nous continuons à demander à la population de soutenir toujours son armée, ses services spécialisés. Et ça peut vraiment nous aider beaucoup parce que c'est Merci. Une guerre qui n'est pas classique, c'est une guerre asymétrique.
Merci Bernard Amissi Kalonda, administrateur du territoire de Beni au Nord Kivu. Professeur Arsène Mouaka, vous êtes député national élu de Beniville au Nord Kivu, également cadre du parti politique DCFN, parti de l'opposition. Professeur, comment vous expliquez cette énième attaque qui revient après 2 mois d'accalmie? L'administrateur du territoire l'a dit, finalement cette situation récurrente exaspère plus d'un Congolais.
Merci beaucoup Alain. Avant toute chose, je voudrais d'abord m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui nous ont quittés pour la énième fois et qui allongent la liste, qui va au-delà déjà de 1500 personnes qui sont massacrées dans une région qui est en zone opérationnelle. Et donc je crois que c'est un peu paradoxal comme cela. De deux, je voudrais souligner que nous sommes dans une ville refuge, Oicha, la ville d'Oicha, puisque nous sommes en ville. Je crois que là, il va falloir que tous ceux qui nous suivent le sachent. Nous sommes en ville, à ville d'Oicha, et dans l'hinterland de cette ville qui est devenue pratiquement la ville qui reprend les populations qui fuient de partout. Qui fuient de Kamango, qui fuient de Kiskivi, qui fuient de Kokola, qui fuient de Maimoya, de Ringeti, de Mutuanga, de partout. Et entre 1986 et 2016, la population de cette petite cité, parce que c'était une petite cité de 10 000 personnes, est passée à plus de 100 000, reprenant aussi des populations qui viennent de l'Ituri. Et donc, voilà une ville forcée, une ville qui s'est constitué à la suite des gens qui sont traumatisés à beaucoup d'endroits et qui devraient être protégés par le gouvernement. Puisque c'est des populations qui viennent justement des endroits où ils ont vécu les affres les plus pénibles. Les gens ont vécu le viol, les gens ont été tués en 40 ans, entre 1986 et 2016. Et malheureusement, le gouvernement a continué à gérer cette grande ville forcée comme une petite bourgade de 10 000 personnes avec un nombre peu élevé de policiers, ainsi de suite. Et comme pour dire, nous sommes dans une région militaire et on continue à massacrer. Ça signifie qu'il n'y a pas d'efficacité. Je salue tout ce que l'armée fait, parce qu'elle fait beaucoup. Mais je crois que quand on vient massacrer dans une ville, ce n'est pas seulement une question d'opération militaire. Ce n'est pas seulement une question de l'armée. C'est d'abord une question de la police. Parce que dans une ville, la police doit assurer l'ordre public. Et il y a la sécurité civile qui doit travailler, l'ANR, qui travaille beaucoup dans d'autres domaines pour arrêter des politiciens, ainsi de suite. Elle doit beaucoup travailler sur ces questions. Et donc, je crois que là, nous sommes en train de réfléchir sur une situation qui interpelle réellement le gouvernement, qui ne prend pas réellement la mesure des menaces qui perdurent dans cette région, non pas seulement une année et demie, mais je parle de 40 ans. C'est depuis mai 1986 jusqu'à ce jour que des vagues de population quittent tous les villages des environs d'Oicha pour peupler sérieusement la ville d'Oicha, qui malheureusement n'est pas sécurisé. Et donc, je voudrais d'entrée de jeu dire que cette situation s'analyse comme une défaillance d'un gouvernement qui est préoccupé par autre chose que par des questions réellement sécurisées. Je crois que le ministre de la Communication avait conférence de presse aujourd'hui. Bon, est-ce que la question de Ouicha, il nous a dit que le gouvernement a pris telle mesure ou telle autre, renforcer la police à ceci, renforcer les éléments qui doivent sécuriser. Parce que si des assaillants s'introduisent dans une ville, la réaction, la première et la plus légitime serait celle de la police. Je n'ai rien appris de ça.
Alors, professeur, au niveau du Parlement, on se souvient que les députés du Nord Kivu, les députés du Grand Nord, vous avez mené à ce niveau-là beaucoup d'actions. Vous avez boycotté des plénières, ainsi de suite. Où est-ce qu'on en est?
Oui, nous avons tenu une plénière à huis clos, où nous avons touché à tout ce qui est interdit, tout ce qu'on ne peut pas dire publiquement. Nous l'avons dit là-bas. Nous nous sommes exprimés au nom de la population.
Résultat?
Le résultat, c'est que nous avons fait des résolutions claires qui participent à la solution au problème. Malheureusement, je ne peux pas les dévoiler ici. C'est des matières qui relèvent de la haute sécurité de l'État. Mais nous avons fait des propositions et jusque-là, sur le terrain, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu que le gouvernement a fait après qu'on lui ait fait des recommandations par l'Assemblée nationale, puisque nous avons invité le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, le ministre de l'Environnement, puisque les Assaya habitent le parc national de Virunga, et tous les responsables de sécurité, chefs d'état-major, de l'armée, de la police et tout le reste. Oh, ils ont été invités à l'Assemblée, nous avons échangé ensemble. Ils nous ont promis des choses qu'on ne voit pas. On ne voit rien. Et donc, on a réellement besoin de dire que des Congolais qui meurent dans les territoires de Beni, dans la ville de Beni, dans la ville d'Oicha, ceux qui meurent au nord Kivu, ce sont aussi des Congolais, comme les Congolais d'autres provinces, qui méritent l'attention de notre gouvernement. Et nous avons besoin réellement que le gouvernement sécurise les Congolais, puisque les Congolais ne peuvent pas continuer à mourir comme des bêtes de somme. C'est inacceptable.
Merci, professeur Arsène Mouaka. Jean-Jacques Ouondo, vous êtes expert en questions militaires. Comment vous analysez cette énième attaque?
Oui, permettez-moi d'abord de présenter toute ma compassion et mes condoléances aux familles qui sont touchées, aussi à toutes les victimes, les familles des victimes passées. Les tueries qui se déroulent sans fin à Beni sont tout simplement surréalistes. Elles illustrent, une fois de plus, l'incapacité des autorités politiques et sécuritaires congolaises de sécuriser l'Est de la République démocratique du Congo. On comptait toujours, depuis des années, à plus de 70 groupes armés, si on en croit aux travaux de recherche faits par le groupe d'études sur le Congo de Jérôme Stern. Je regrette aussi le fait qu'on est passé plusieurs fois sur vos antennes pour parler de la même problématique. Malheureusement, avec tout le respect que je dois à l'intervenant de l'administrateur de la région de Oicha, rarement on a eu des experts militaires de terrain pour venir nous expliquer la situation de terrain. Et parfois, ce sont des personnes qui ne maîtrisent pas certains détails, certains aspects techniques militaires qui viennent expliquer une situation qui relève plutôt du domaine purement technique militaire. Vous êtes d'accord avec moi que par le passé, on a vu comment cette opération a débuté. En janvier 2014, fin décembre 2013, janvier 2014, avec le feu colonel Mamadou dans la création de la mort, celui qui a planifié ce qu'on appelle les ordres d'opération, les plans de manœuvre de cette opération. Vous connaissez les circonstances dans lesquelles il a été assassiné. Et par la suite, c'est le général Bahouma, le général Bahouma qui a repris cette opération. C'est-à-dire de janvier jusqu'en août 2014, au moment de son décès. Et pendant cette période, sur base du plan réalisé par le feu colonel Mamadou Ndaba, on a vu que les adeptes n'existaient plus dans cette région, au point que les deux chefs d'état-major, de l'Ouganda et du Congo, se sont retrouvés à Madina, qui était le fief des adeptes Nadou, où Djamil Mukulu avait posé son cliché, pour faire la déclaration. Subitement, le général Bahouma va disparaître et il sera changé par le général Akili Moindo, communément appelé Mundos. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a constaté un regain de massacre. Et quand on analyse les éléments de temps de manœuvre réalisés par Mamadou Ndala et général Bahouma pour le mode opératoire des ADF Malou, on se rend compte que les assaillants qui sont venus après leur décès utilisent un mode opératoire qui est différent du mode opératoire originel des ADF Malou. Là, on s'est posé des questions. Et puis, on s'est rendu compte qu'après la mission d'enquête parlementaire ou de l'information parlementaire s'est déroulé en octobre 2014, certains dysfonctionnements ont été relevés, les mêmes dysfonctionnements qui ont été communiqués par nos services militaires sur le terrain. Mais malgré cela, comme l'a dit le professeur tout à l'heure, des mesures efficaces n'ont pas été prises. Et c'était la période où on a connu tout ce massacre. Le général Mundos sera déplacé en janvier ou mars 2015 pour être remplacé par le général Mbangu, Célestin Mbangu, mais il a été déplacé pour être envoyé à Kalemie. Et à la grande surprise, on apprendra qu'aujourd'hui, le général Moïndo, dont beaucoup d'experts, pas seulement nous autres, mais d'autres experts indépendants, soupçonnent d'être en partie impliqués directement, indirectement ou passivement dans ce qui se passe à l'Est, d'autant plus que le rapport des parlementaires ont pointé des complicités au sein des FARDC, tout comme le travail fait par le groupe d'études sur le Congo. Et aujourd'hui, le général Moïndo se trouve dans le secteur opérationnel à Mambasa. Et si vous voyez chez Mambasa, et par le passé, on sait que le même général a été... excusez-moi parce qu'on va revenir toujours sur les mêmes théories, mais ici on veut peut-être ouvrir d'autres pistes. Le même général a été par le passé sous le musée Laurent Désiré Kabila, l'officier des liaisons au Kenya. Il était chargé de recruter les ADF Nalu pour combattre les rébellions MLC et du RCD soutenu par l'Ouganda et le Rwanda.
Jean-Jacques Kondo.
Ils ont mené ensemble des opérations avec Jamil Mukulu.
Jean-Jacques Kondo.
Aujourd'hui,
Jean-Jacques Kondo, comment vous expliquez cette nouvelle méthodologie ou disons simplement cette méthode qui consiste pour les assaillants de lancer des tracts pour prévenir une attaque? Comment vous expliquez ça en ce qui concerne les techniques militaires et en plus parmi les assaillants il y a des femmes?
Oui, les femmes, elles peuvent être là. Et c'est déjà bizarre de voir que parmi les assaillants des femmes, alors qu'on identifie déjà les ADF Nalu comme étant un groupe islamisé, et vous savez qu'au niveau de militaire islam, il n'y a pas vraiment, ou des armées arabes, il n'y a pas de femmes comme telles dans l'armée, jouent un rôle secondaire. Donc ici, il y a quelque chose qui ne tient pas, déjà quand on explique que les assaillants sont des ADF. Deux, rappelez-vous, à l'époque de la guerre du Lafdel, 1996-1997, et chaque fois que les troupes de la rébellion avançaient, cette rébellion qui a été aujourd'hui de policiers soutenus par le Rwanda, l'Ouganda et d'autres pays, ils annonçaient en avance les zones qu'ils allaient occuper. Et généralement, quand ils annonçaient, c'est pour semer la panique. Et vous voyez que ce sont le modus operandi des ADF. De l'autre côté, quand on dit que voilà, on a été surpris par la prime, c'est risible, parce que quiconque sait comment fonctionne l'armée, généralement, dans les ABCD de la tactique militaire, on conseille même que les attaques se déroulent dans des moments, dans des conditions météorologiques, ou quand il fait noir, ou quand il y a des brouillards, et ce sont des moments propices. Et puis une armée bien préparée doit s'attendre plutôt à ce moment-là pour être pour pouvoir résister aux attaques de rebelles ou des assaillants.
Merci.
Donc ici, l'excuse qui a été faite, malheureusement, par le porte-parole l'officier Mac Azoukai, il dit que voilà, nous étions surpris, alors qu'il y avait des tracts qui étaient distribués et qu'on savait que généralement, quand il faut attaquer, on attaque pendant les conditions météorologiques défavorables. Donc, ici, il y a quelque chose qui ne va pas.
Merci.
En sens que, il faut comment aussi relever la thèse de complicité interne au niveau des FARDC.
Merci Jean-Jacques Kondo, je vous redonne la parole tout à l'heure. Bernard Amissi Kalonda, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
C'est Freddy Ndjabou à partir de Kinshasa. Je suis personnellement déçu que le commandant de l'opération Sokola 1 déclare par la voix des ondes que les ennemis de l'ADF ont profité de la pluie pour agir, comme si les FARDC sont inopérants pendant la pluie. Par le fait même, le commandant, sans le savoir, livre à l'ennemi notre tactique de combat qui consiste à observer une trêve unilatérale à la faveur des intempéries.
J'ajoute cette réaction d'Abdoul Makassi de Beni en Nord Kivu, qui dit en écoutant le porte-parole de l'opération Sokola 1, apparemment, nos vaillants soldats des FRDC n'opèrent pas sous la pluie. Conséquence, 9 civils tués sous une forte pluie par les rebelles ADF mardi dernier. Ainsi, peut-on conclure par là qu'à chaque attaque des rebelles sous la pluie, on doit chaque fois s'attendre à l'inaction de nos forces de sécurité, Bernard Amissi Kalonda?
Bon, en fait, moi, je ne partage pas ce point de vue. Et la pluie, oui, c'était vraiment aussi un facteur qui a favorisé cette situation. Mais nous devons retenir que notre armée se bat en toutes circonstances. Que ce soit la pluie, la nuit, même le jour. Voilà, ce qui est arrivé... immédiatement, ça n'a pas traîné et il y a eu accrochage FRDC et avec ses assaillants. Et ces assaillants se sont retirés rapidement de leur retranchement. C'est à ce moment-là qu'ils commençaient à tuer tous celui qui était en train de fuir les populations. Voilà les difficultés. Vous allez même constater les corps des la population qu'on a retrouvée, c'est dans les rues, les avenues, là où ils fouillaient. Voilà. Donc, comme c'était vraiment une panique généralisée, comme on n'est pas habitué à attendre des crépitements de balles de tous côtés. Voilà. Mais les opérations continuent. D'ailleurs, les FARDC ont poursuivi l'ennemi et ont tiré, ont abattu plusieurs adétonales qu'on n'a pas su amener pour montrer à la population, seulement on a amené un seul corps. Voilà.
Alors, monsieur Laté, vous avez
il
suivi...
Il n'y a pas vraiment...
Vous avez suivi tout à l'heure Jean-Jacques Wondo, mais jusqu'à quand va-t-on parler des présumés ADF? Parce que il semble que l'identité de ces personnes jusqu'à ces jours ne soit pas clairement connue. En plus, Jean-Jacques Wondo a relevé le fait que du point de vue des experts militaires, le mode opératoire de ces assaillants est différent de celui des ADF.
Bon, en fait, d'ici là, la population et l'opinion nationale saura que qui sont ces gens qui viennent tuer les populations ici au territoire de Béni. Des audiences qui seront organisées par l'auditorat. Tout le monde va suivre. D'ailleurs, le travail avance. Nous allons suivre comme on a suivi à l'époque du fait général Mamadou. Il y aura des audiences et c'est ce qu'on a toujours dit, présumé, ça ne sera plus parce qu'il faut qu'on arrive à organiser des audiences par l'auditorat.
Merci.
Du coup, ça va se faire d'ici là.
Merci M. Laté. Professeur Arsène Mwakaya, pour vous, cette réaction qui nous vient de Kisangani.
Pepe Lisungi Botomoito, je vous appelle depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. Avec plus de 1000 personnes tuées, pouvons-nous vraiment continuer à croire aux discours et déclarations de nos autorités politiques ou militaires sur la situation de Beni? Si oui, comment? Alors que les M23 qui étaient plus forts ont été vaincus dans moins d'une année, mais on n'arrive pas à mettre fin à ce que moi j'appelle aventure de Nalu, même sur le plan diplomatique, plus d'une année après. Avec le climat politique du pays il y a une année, ne voyez-vous pas que la situation de Nalu, c'est un arbre qui cache la forêt sur l'avenir politique de la RDC, et Beni est utilisé comme gâchette?
Professeur Mwaka.
Oui, je voudrais d'abord dire oui, il faut faire confiance aux autorités, parce que nous n'avons pas d'autres autorités que celles-là. Et donc, on va continuer à faire confiance. Mais je dirais que nous devons, en bon citoyen, conformément à notre constitution, pousser notre gouvernement à agir. Je pense que c'est là que nous devons aller. On doit rappeler au gouvernement sa mission première, c'est celle de protéger l'intégrité territoriale de notre pays, puisque quand nous disons ADF Nalu, nous disons des étrangers ougandais qui sont sur le territoire congolais. Nous voulons dire ça, donc il y a agression. Et donc ça c'est la première chose que nous devons rappeler au gouvernement. La deuxième, nous devons rappeler au gouvernement que la vie des Congolais est sacrée. et que quand un Congolais meurt, on doit le protéger autant qu'on protège les Indiens aujourd'hui. Parce que dans cette ville, je félicite le gouvernement, il protège très bien les Indiens qui sont en difficulté. Nous voudrions que le même comportement que le gouvernement affiche à l'endroit des étrangers, qu'il l'affiche à l'endroit des Congolais. Ils ne vont pas mourir comme des poules et ils ne foutent rien. Et donc, je pense que ce sont les deux éléments que nous devons rappeler au gouvernement et continuer à lui faire confiance, puisqu'il est encore là, son mandat court jusqu'au 19 décembre 2016, cette année. Et donc, nous faisons confiance jusqu'au 19 décembre 2016.
Alors, professeur, dans le cas où des tracts sont lancés par l'assaillant, quelles sont les mesures, par exemple, qui devraient être prises selon vous?
Oui, je voudrais d'abord dire qu'il y a les tracts. Ensuite, il y a la collaboration de la population, puisqu'on nous tord les oreilles en inventant que les Congolais de Beni se tuent eux-mêmes, qu'ils se suicident. C'est ce qu'on nous fait croire, qu'ils sont bourreaux d'eux-mêmes. Et donc, je voudrais dire que la population a dénoncé, a informé, elle a été attendue, les services ont fait leur travail, je pense, à recueillir d'abord les informations amenées par la population. Et je pense que l'administrateur du territoire qui est en ligne pourra l'attester, puisqu'à chaque fois qu'il y a des suspects, la population collabore et parfois attrape et amène aux autorités. Et donc, il est de la compétence des autorités d'en faire ce qu'ils veulent. Maintenant, s'ils attrapent, ça signifie que notre armée est défiée. C'est un défi. Comment des gens qui vont vous attaquer vous préviennent? Et ils vous préviennent et ils agissent effectivement. Malheureusement, ils agissent, ils commencent et ils finissent. Il est vrai que l'armée a attaqué. Mais nous aurions bien voulu, je l'ai attendu ici de l'administrateur, j'apprends de lui que les chèvres et les biens de la population ont été récupérés par l'armée. Ok, je pense que la population me suit, elle va se rendre à l'administration du territoire demain pour récupérer tous ces biens. Parce que l'administrateur du territoire témoigne qu'il a des biens de la population qui ont été emportés par les assaillants. Et donc, on a réellement besoin que le gouvernement agisse en toute responsabilité. Là où il n'a pas bien agi, il dit « Je m'excuse, j'ai mal agi et désormais ça ne se répétera plus. » Puisque nous sommes où en ville de Ouicha? On est à Mamiki. Mamiki, c'est où? C'est là où on a commencé à tuer le premier jour, en octobre 2014. C'est-à-dire l'assaya recommence le cycle.
Il revient sur les lieux du crime
où on n'a pas pris des dispositions. C'est là où j'insiste pour dire quelles dispositions policières sont prises. La police a des difficultés, le gouvernement doit les résoudre. On a eu le temps d'en parler à détail. On a réellement besoin que le ministre de l'Intérieur intervienne. On a besoin que le général Guisengimana intervienne. Qu'il intervienne. Et il sait de quoi je parle, puisqu'ils ont les documents.
Alors, professeur, très rapidement, il est également signalé des mouvements de population. Vous êtes un élu de la contrée. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises pour encadrer ces populations qui se déplacent?
Oui, je crois qu'il est très clair que le gouvernement provincial, qui a été relayé par l'Assemblée nationale ici à Kinshasa, a souligné le fait qu'il y avait des mouvements suspects et que ces mouvements suspects devaient être arrêtés, des mouvements des populations qui étaient non identifiées et des mouvements qui n'avaient pas d'explication, qui partaient du nord Kivu vers l'Ituri. Et donc, tous ces mouvements ont été soupçonnés et j'espère que les autorités ont finalement arrêté ces mouvements, puisque ça a été décidé, tant à Goma qu'à Kinshasa, que ce mouvement devait être stoppé. Et donc, on espère que ça va s'arrêter.
Jean-Jacques Wondo, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu, sud Kivu.
Je réponds au nom de Robert Kabandani. Je suis à Bukavu, au sud Kivu. Les massacres à Beni iront toujours en augmentant tant que les méthodes et stratégies utilisées par le gouvernement, les FADC et la MONUSCO resteront toujours les mêmes. Selon moi, on peut déployer toutes les forces des FADC se trouvant dans les provinces où il y a la calmie, vers l'est, dans les endroits à problème, et qu'il y reste jusqu'à ce que l'ennemi sera très bien identifié, maîtrisé et bouté dehors.
Alors Jean-Jacques Wondo, peut-on finalement mettre fin à ce cycle de violence? Et si oui, quelles sont les stratégies efficaces qui peuvent être mises en place sans bien sûr dévoiler les stratégies militaires?
Pouvoir mettre fin à ce cycle de violence est une question de volonté. Et comme on dit, la volonté politique, j'aime souvent le dire, la guerre est une continuation de la politique par d'autres moyens. À ce moment, quand vous analysez la situation qui s'est déroulée en 2012-2013,
dans la partie du petit nord, donc vers Goma et dans les Massissi, avec le M23, à un certain moment, la population était désespérée. Mais il faut reconnaître le travail qui a été fait par l'accompagnement de la population, de la société civile, la pression qu'ils ont mise sur la MONUSCO, sur les autorités congolaises, ça a créé une volonté politique. Cette volonté politique a été déterminante parce que ça a permis un alignement diplomatique sur le plan international et une pression sur les autorités qui n'avaient pas d'autre choix que de faire la guerre parce que là, c'était question de calcul politique. Et je pense que si on arrive à mettre en place ce genre d'ingrédients pour la situation de Beni, on peut facilement trouver des solutions. Au-delà des stratégies militaires, parce que la stratégie appliquée jusqu'à présent a montré ses limites, parce qu'il y a des enjeux latents, il y a des enjeux cachés qui ne sont pas mis au grand jour pour savoir pourquoi telle option, pourquoi laisser les mêmes troupes qui ont été soupçonnées par le passé de connivence avec l'ennemi être déployées sur ces sites. Et c'est toute une série de questions, le mode opératoire non plus, qui ne correspond pas à la manière de traquer ces petits éléments. L'autre fois, nous parlions par exemple de mettre en place des forces de police, des types de gendarmerie qui développent une stratégie de renseignement des proximités. Nous, cela n'a jamais été pris comme mesure. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a au moins 20 000 personnes. Ce n'est pas question d'augmenter le nombre des militaires parce que, comme l'a dit le professeur tout à l'heure, là où on a attaqué aujourd'hui, c'était le premier endroit qui a été attaqué. Donc on suppose que quand on mène une opération militaire à cet endroit, on doit commencer par sécuriser des zones et créer des îlots, partage d'huile et par cercle concentrique et avancer jusqu'à ce que nous puissions ou qu'ils puissent sécuriser toute la zone. On sait qu'il n'est pas le cas. Ici, on a toutes les informations. En plus, la population aide les autorités militaires à communiquer sur les intentions de l'ennemi. Et dire qu'on est surpris, je pense qu'il y a des choses, des dysfonctionnements, ou soit il y a un sabotage ou des complicités qui pourraient être. Le problème tient au niveau de la volonté politique des autorités de pouvoir mener à bras le corps ce combat contre les assaillants. Et nous restons sur notre position de dire que jusqu'à présent, le mode opératoire ne correspond pas aux ADEF. C'est vrai qu'on utilise des anciens éléments qui ont servi dans les ADEF et qui sont peut-être répandus ou qui ne sont plus dans ce mouvement. Mais il y a d'autres enjeux qui sont cachés et c'est à ce niveau-là qu'il faut chercher des solutions.
Alors, Jean-Jacques Ouando, il y a également beaucoup d'efforts qui sont fournis par l'armée nationale ainsi que son partenaire, la MONUSCO. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour consolider ces acquis?
Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour consolider les acquis? Je pense qu'il faudrait une volonté continue, et vous parlez sans doute de l'opération Salama, et on constate quand il s'agit d'autres groupes Maï-Maï, on identifie comme étant des groupes locaux, directement on sent qu'il y a une certaine volonté de pouvoir les éradiquer. Et quand il s'agit de groupes qui auraient des origines plus ou moins étrangères, là on se rend compte que quelque part il y a certains laxismes ou des conflits entre la MONUSCO ou les autorités congolaises pour pouvoir mener les opérations. Il n'y a pas que pour le cas des ADEF, donc on est aussi la situation avec les FDLR où on sent qu'il n'y a pas cette complicité, il n'y a pas encore cette ce qu'on appelle joint task, donc cette task force entre la MONUSCO et les autorités congolaises pour pouvoir mener ensemble cette opération. Quelque part, cela explique quoi en nous posant des questions. Donc je pense que comme on l'a démontré en 2013 avec la débâcle du 1-23, il faudrait appliquer la technique qui a marché. On dit qu'on ne change pas d'équipe et qu'ils gagnent. Moi je pense qu'ils ont déjà un précédent.
Merci.
Ils peuvent tirer des leçons de ce qu'on appelle des retours de l'expérience militaire de ce qui s'est passé au sud pour appliquer plus ou moins la même technique pour essayer d'éradiquer cette situation qui est en deuil et qui malheureusement risque de continuer dans cet état si la même situation sur les plans opératifs n'est pas changée.
Monsieur l'administrateur du territoire, Bernard Amissi Kalonda, pour vous, quelle est la solution finalement idéale? Qu'est-ce que vous pouvez dire en termes de solution pour rassurer toutes ces populations qui sont en train de vous suivre en ce moment?
Bon, en fait, à notre niveau, nous sollicitons les concours de tout le monde, c'est-à-dire d'abord les députés nationaux tous, de toutes les tendances, de vraiment les organiser, de venir encore une fois, pour ensemble se joindre aux efforts des autorités locales pour peaufiner ensemble des stratégies, donner, soutenir l'armée. Vous savez, dernièrement, nous avons connu des problèmes. Il y a encore une fois les phénomènes Maïmaï qui s'observent à Eringeti. Il y a eu attaque d'une position FARDC. Des jeunes qu'on a.
Oui, monsieur Laté. Allô? Allô? Voilà, décidément, nous avons perdu monsieur l'administrateur du territoire de Béni, Bernard Amissi Kalonda. La réalisation va tenter de le retrouver pour sa conclusion. Professeur Arsène Mouaka, comment vous entrevoyez finalement l'avenir de cette région, de cette partie de la République?
Oui, je crois que nous risquons d'observer des choses très déplorables dans cette région. Si d'un, on ne repense pas l'ordre public, comme venait de le dire Jean-Jacques tout à l'heure, nous devons repenser l'ordre public, comment on doit sécuriser les villes et les agglomérations refuges. Ça doit être repensé, ça demande de l'intelligence. Des deux, on doit absolument éviter que la population ne puisse pas ne pas avoir la confiance à notre armée. On ne doit pas tuer à 200 mètres, 300 mètres d'une position de l'armée. C'est inexplicable. Quelle que soit la raison, et surtout quand c'est une raison fallacieuse, comme une pluie. De trois, on doit voir le gouvernement dans une position qui ne pousse pas la population à se poser des questions si le gouvernement n'est pas complice. On a vu le gouvernement mobiliser les gens lors du M23, la solidarité nationale, mais il n'y a jamais eu même une journée de deuil national pour les 1500 qui sont tués à Oicha. Mais le gouvernement doit mobiliser la solidarité nationale et éviter que des soupçons s'orientent vers lui. Quatre,
il doit en guise avoir... de conclusion, professeur.
Je plaide pour une enquête internationale. Si le gouvernement n'est pas complice, il doit activer le mécanisme d'enquête indépendante. Et cette enquête doit être internationale. Cette affaire doit être portée devant la CPI. Cela nous convaincra que le gouvernement n'est pas suspect. Et je pense que le gouvernement devra activer le mécanisme de la justice nationale. On ne doit pas attraper déjà et les garder et continuer à dire que ça va venir, ça fait plus d'une année que les gens sont arrêtés, ils ne sont pas jugés et c'est inacceptable.
Merci professeur. Jean-Jacques Wondo, l'option d'une enquête internationale indépendante pourrait-elle faire partie des solutions par rapport à cette situation qui prévoit à Béni?
Oui, non seulement d'une solution, mais de la pression, d'autant plus que à notre niveau, au niveau de la structure que je dirige, DESC, Défense et Sécurité du Congo, depuis une année, donc juin 2015, nous avons lancé en ligne une pétition pour qu'il y ait une justice internationale indépendante et transparente sur une enquête internationale sur ces massacres. Donc aujourd'hui, on est à plus ou moins 22 000 signatures. Nous pouvons inviter les populations congolaises qui sont de partout de se renseigner auprès de votre radio pour pouvoir faire la pression, parce que c'est un moyen qui peut faire la pression. Vous avez vu qu'aujourd'hui, les criminels comme Bosco Ntaganda se trouvent à la haie. Et nous sommes sûrs que si les gens nous accompagnent dans cette pétition, on pourrait aboutir à quelque chose de costaud. Et de l'autre côté,
en guise de conclusion,
il faudrait voir les structures...
Allô, Jean-Jacques, allez-y concluez, s'il vous plaît.
Donc pour la conclusion, il faut revoir les structures de renseignement militaire. Il faut éloigner de la zone opérationnelle les anciens éléments du CNDP qui sont dans les régiments aujourd'hui, effectuer des rotations régulières des officiers de FARDC, parce que beaucoup de gens sont familiers avec la région et donc il y a des complicités.
Merci.
Et notamment, voir éloigner notamment aussi de la zone de Mombasani.
Merci Jean-Jacques Wondo. Monsieur l'administrateur du territoire Bernard Amissi Kalonda, un mot en guise de conclusion.
En fait, nous devons toujours solliciter l'appui de la population, de soutenir son armée, et nous devons toujours travailler dans la synergie. Ce qui est arrivé, c'est arrivé, mais nous regrettons, mais nous devons toujours aller de l'avant, et il y aura maîtrise de la situation, et
merci.
Ce qui est arrivé
Il y aura toujours des solutions.
Merci, M. Latier. Fin de cette émission. Réalisation Guy Maté, assisté de Berry Franklin Luchaka. Mise en onde André Mongou. Supervision Julien Nyamouini. Présentation et coordination Alain Irung Mouchige. Merci de votre attention. Au revoir.